À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Nicole Garcia, dans l'ordre peut-être actrice et cinéaste. Voilà.
Troisième épisode, au théâtre, parler fort. Bonsoir Nicole Garcia.
Bonsoir.
Ce soir nous allons parler de théâtre et nous allons parler de la comédienne de théâtre que vous êtes, que vous avez été un certain nombre d'années d'ailleurs avant de passer actrice de cinéma. Et un certain nombre d'années parce que votre désir de théâtre remonte à loin, il remonte à l'adolescence, à même la préadolescence.
Oui, préadolescente, 13 ans.
C'est jeune.
Oui.
Et d'un coup,
c'est un peu comme ce que tu disais hier par rapport à des moments qui sont comme des photographies qu'on porte en soi. Alors, est-ce que la mémoire est exacte ou est-ce qu'on l'a déjà transformée? Bon, en tout cas, moi, ça s'appelle la rue d'Arzeux, mais l'autre qui coupait comme ça, c'était un boulevard, et je ne connais plus le nom de ce boulevard.
À Oran.
Si, à Oran, oui. Dans ce boulevard, il y avait un cinéma et c'est là que j'avais un peu séché les cours un jour pour aller voir Psychose d'Hitchcock. Mais en tournant, en tout cas de ce boulevard vers la rue d'Arzeux, je me souviens même, sans faire ma référence proustienne, à la forme des carreaux de ciment qu'il y avait à cet endroit-là, je me suis dit, un jour je serai actrice. Et ça a été pensé qu'une fois. Je me souviens que je l'ai dit, mais je pense que 10 mètres plus tard, je l'avais plus dans la tête. Mais ça s'est prononcé avec tellement de netteté et de choses comme définitives, comme qu'on ne pense pas surtout que je sentis que j'étais visitée. C'était une phrase qui venait de moi et que de moi. Un jour, je serai actrice. Je me souviens de l'avoir pensé sans un émoi particulier. C'était comme ça. Et ce qui est étonnant après, c'est la détermination dans laquelle cette phrase d'un jour, d'un interclasse où j'étais, a conduit toute ma vie.
Cette phrase, vous l'avez pensée ou vous l'avez dite à voix haute?
Non, je ne pense pas que je parle tout fort dans la rue. Non, je crois que je l'ai pensée.
Est-ce
j'ai pensé
êtes...
très fort, mais quand j'y pense maintenant, je ne l'ai pas écrite. Mais c'était une pensée. Mais
Est-ce qu'elle vous a arrêté dans la rue? Est-ce que vous marchiez, vous vous êtes arrêté ou non?
Non, justement, c'était calme, je l'ai pensé, mais la force de cette pensée, l'irruption de cette pensée, je m'en souviens encore. Et après, ce qui est étonnant, c'est pas tant ça, c'est qu'après, ça a été une mise en place, une mise en œuvre. Et je crois que j'en avais pas parlé tout de suite. Je le dis un peu plus tard à mes parents. Je suis allée le dire à un oncle qui était médecin à Oran, mon oncle Alquier, qui était un peu le mage de la famille, où on allait se référer à lui pour les décisions importantes. Et il m'a dit, ah oui, alors, mais d'accord. Mais le théâtre, alors, pas de cinéma. Le cinéma avait très mauvaise réputation encore. Je sais pas, on disait que les filles couchaient au cinéma. Voilà. Le théâtre était encore préservé de cette réputation libertine. Et même grâce à ça, je dis à ma mère que je pourrais commencer à faire des cours au conservatoire l'année d'après, quoi, vers 13-14 ans, oui. Donc au conservatoire d'Oran. Elle me dit ça corrigera le fait que tu parles si vite. J'ai toujours parlé aussi vite, mais elle m'a laissé comme ça aller passer quelques mois au conservatoire d'Oran. Mais tout ça est allé très vite après, puisque l'indépendance est arrivée. Mais voilà, et j'avais... Donc, je suis arrivé quand même à entrer sur une scène et à dire un jour le songe d'Athalie, de Racine. Donc, je commençais à savoir ce que c'est qu'être sur une scène. Mais après, ce conservatoire où j'avais un petit... Même pas un petit succès, parce que c'était... Oui, enfin, on m'avait dit que je disais bien, que je lisais bien. M'a fait croire que ce serait pareil au conservatoire de Paris. Donc, quand j'étais arrivée à Paris, très vite, après être arrivée, je me suis présentée au conservatoire national, et avec les imprécations de Camille. Et très vite, la clochette a retenti pour me remercier. Je pensais que c'était pas aussi facile que le conservatoire d'Oran.
On va y revenir, bien sûr, au conservatoire et à ces années d'apprentissage, mais encore un mot sur cette révélation dans la rue d'Oran. Aujourd'hui, avec le recul, comment comprenez-vous cette vocation?
Oh là là, à quel moment on tombe amoureux, à quel moment on est saisi par une vocation? C'est une archéologie passionnante. Mais c'est un moment qui décide de ce qui va vous emporter. ça surgit et après on ne se sent plus seul. On ne se sentira plus jamais seul. Et ça s'est confirmé. Mais je ne sais plus si c'est après ça que, là aussi c'est plusieurs facteurs ensemble, que ce professeur de français qui s'appelait Monique Rivet, qui débarquait en Algérie, qui nous parlait du théâtre, qui avait vu Villard, Gérard Philippe, le théâtre de Chaillot. Et voilà, je vous ai dit hier que ça avait cristallisé quelque chose de ce désir. Et d'ailleurs, je me souviens encore que je m'étais approchée de ça. À la fin du cours, je m'étais approchée de son bureau. J'adorais parler avec elle. J'étais un petit peu amoureuse d'elle. Et, parce qu'elle proposait une féminité très différente des femmes autour de moi, des femmes plus fardées, plus voilà. J'appelais la féminité onglée, des choses plus... Elle était en chaussures plates, les cheveux courts. Enfin, elle était une autre manière d'être femme possible. Et j'étais allée lui dire, mais moi, je voudrais bien rentrer au conservatoire. Et j'ai vu son œil affolé, peur d'un coup de l'influence qu'elle pouvait avoir sur une gamine. Dit, oh, mais c'est très difficile, le conservatoire. Non, non, oh là là. Je sentais qu'elle était presque... Elle essayait de... Dans une dissuasion, quoi, de... Voilà. Et je vais repenser à elle, plus tard je vous le dirai peut-être, mais quand j'ai vu que j'étais reçue au conservatoire, alors, elle, je croyais l'avoir oubliée, et son image s'est surexposée, s'est imposée sur la liste des reçus.
Et elle a porté le regard théâtral, la culture théâtrale, vous disiez, elle avait vu Jean Villard, Gérard Philippe et tout ça. Est-ce que vous aviez des idoles à ce moment-là, quand on est ado aussi on s'identifie, donc est-ce qu'il y avait des actrices auxquelles vous identifiez, peut-être plus au cinéma où vous alliez,
oui,
qu'au théâtre,
oui,
à ce moment-là?
Oui.
Et c'était lesquelles alors?
Au théâtre, pas du tout. Au théâtre, c'est vrai, je n'ai pas eu de révélation, j'ai chahuté dans les matinées scolaires, je n'ai pas eu quelque chose qui m'a... Ça aurait pu m'appeler à ce moment-là, mais ça n'a pas été le cas. Les actrices, j'aimais beaucoup Kim Novak. J'avais vu Picnic et je la trouvais extraordinaire. Quand je vous parle de Kim Novak, c'est parce qu'elle était belle, certes, mais elle avait quelque chose de si mélancolique, dans toutes circonstances, qui la rendait fragile et qui me la rendait proche. Après, je regardais les actrices que je regardais sur les journaux que je feuilletais chez mes tantes, les Paris Match, les...
Donc Brigitte Bardot, à ce moment-là,
Brigitte Bardot, oui. Brigitte Bardot, Gina Lolo Brigida, Liz Taylor, beaucoup aussi.
Certaines images de la féminité, là.
Oui, oui.
C'était pas Monique Rivet.
Eh ben non, on est jamais loin de Monique Rivet. Mais je regardais les journaux que mes tantes achetaient, c'était ces actrices-là, les objets de désir clairement déclarés.
Mais vous saviez de quoi vous aviez envie? Quand vous y repensez aujourd'hui, il y a la phrase, il y a la révélation, mais en gros, ça voulait dire quoi, être actrice?
C'est ça qui est intéressant, c'est vouloir être actrice sans savoir du tout la vie. Enfin, à laquelle ça me préparait pas du tout, c'est normal, mais même le fait d'être actrice, c'est-à-dire, je crois quand même quand j'y repense, et je pense que c'est vrai pour, qu'ils le disent ou pas, mais pour beaucoup, beaucoup d'acteurs, c'est rentrer dans la lumière. C'était ça. On va me regarder. Alors, de quel manque ça parle, ça, chacun estimera. Mais je crois que c'est souvent, pas toujours, hein, il y a plein d'exceptions peut-être à cet état-là, mais c'est quand même la recherche d'un regard. Et j'ai retrouvé ça, la trace de ça, en passant de l'ombre des coulisses, très physique, à la lumière de la scène. C'est un passage, et dans ce passage, on réalise quelque chose qui nous a peut-être manqué à l'âge où on ne pouvait pas décider qu'on allait vous regarder ou ne pas vous regarder, quoi. Il y a ça comme première, je trouverais, option pour expliquer ça. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà, peut-être pour moi, c'était peut-être lié à cette sœur dont je parlais hier, qui était partie quand j'étais toute petite, on ne m'avait rien dit sur elle. Je ne savais pas, on m'a dit qu'elle était en voyage, que ce voyage durait très longtemps quand même. Et puis un jour, on m'a dit comme ça, quelqu'un qui n'était pas très délicat m'a dit « Ah bon, t'as jamais dit que ta sœur était folle ?» Il y avait comme une sorte de mystère autour d'elle, et puis de honte quand même. Je voyais mes parents avaient honte, c'était des gens simples. Et à l'époque, la maladie, ces maladies-là... créer une gêne, une honte, on ne sait pas ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi. Je la ressentais venant d'eux, quoi, cette impossibilité à le parler, à le dire tranquillement. Donc c'était encore un mystère, un secret. Et je crois que peut-être être actrice, c'était la rejoindre en tout cas dans un imaginaire, dans quelque chose que j'ai peut-être imaginé autour d'elle. Ça, je ne m'en souviens pas d'avoir imaginé autour d'elle. J'ai pris un peu l'option de mes parents, quoi. Je voulais plus entendre parler, je voulais plus qu'on m'en parle. Et quand elle est revenue, j'étais comme étonnée, voilà, c'était quelqu'un d'étranger que j'avais pas connu. J'avais fait mon enfance sans elle. Mais par ce désir-là, rejoindre quand même quelque chose. Être actrice, c'est quand même, on sent qu'on va. J'aurais pu être, comme je dis, j'étais bonne élève, mes parents pouvaient espérer que je sois dans l'enseignement, ou avocate, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça qui.
Vous avez fait des études de droit, c'était peut-être aussi voilà, pour voilà, aller dans le droit chemin, souhaité, à votre avis, ouais, par vos parents.
Ouais. Oui. Et donc, être actrice, c'est partir d'un autre côté. Mais non, c'est savoir en tout cas qu'on va vivre avec un imaginaire. On ne le sait pas très bien, c'est aussi, je ne le savais sûrement pas en regardant les carreaux de ciment, mais je pense qu'il y avait, on va vivre ailleurs, avec un ailleurs possible tout le temps, quoi, avec la possibilité de déraper.
Et de rire un peu, puisque vous êtes sortie de ce Conservatoire National d'Art Dramatique en 67, avec un premier prix en comédie moderne, après avoir joué dans Le Renard et la Grenouille de Guitry.
Oui.
Vous étiez une jeune première de fantaisie.
Oui, oui. C'était les emplois, encore à cette époque-là. On disait, oui, grand premier rôle, romantique, je sais pas, princesse, enfin. Mais moi, j'étais encore. J'ai eu une chrysalide assez épaisse pendant toutes ces années de. Avant le conservatoire et même pendant le conservatoire. J'étais un peu ronde, un peu. Oui, un peu maladroite, un peu. J'avais des gros genoux, je me souviens. Il a fallu du temps d'ailleurs, avec les événements que je vous raconterai plus tard, peut-être. Mais. Pour que quelque chose en moi perce de nouveau et close. Pour que tout d'un coup, je me transforme. Et que je passe d'ailleurs de jeune première de fantaisie à qui on demande d'être rigolote, drôle. Le jour de mon concours, je me souviens, les gens riaient énormément dans la salle. Et puis, je continuais à faire rire dans d'autres. À l'époque, je jouais des pièces tout en apprenant Tchekhov et Shakespeare au conservatoire. Je jouais La soupe au canard avec mis en scène par Francis Blanche au théâtre des Bouffes Parisiens. J'étais sans complexe, quoi. Ce que je voulais, c'est jouer. Je pense ce fameux passage de l'ombre à la lumière. J'avais mes amis qui me venaient me regarder en disant mais qu'est-ce que tu joues, tu vois. J'avais pas un goût élitiste. J'ai joué tout ce qu'on voulait me faire jouer. Je répondais à l'appel. Et puis tout d'un coup, de ce gros genou, un peu, j'étais pas très jolie, un peu.
Voilà. Les gestes que vous faites, ça fait penser à quelqu'un de pâteau. Avec les mains, avec votre bouche, faites quelqu'un de pâteau.
Voilà, vous m'avez très bien capté. J'étais un peu pâteaude, mais drôle. Et j'ai minci, et on m'a débarqué en princesse de tragédie. Voilà, la chrysalide avait crevé son écorce, et j'étais un autre emploi. Et d'ailleurs, je regrette un peu parce que, obéissant à ces emplois, ou peut-être aussi à quelque chose, j'ai oublié ces rivages de la comédie, surtout au cinéma, avant le théâtre, quoi. Au théâtre, j'ai retrouvé parfois des comédies comme Deux sur la balançoire, ou d'ailleurs, Scène de la vie conjugale, qu'on a joué avec André Dusselier, qui n'était pas au départ un film gay, un film drôle de Bergman, mais le fait de proférer le texte donne un autre écho, et on faisait à la fois, je crois, rire et. Non, pas rire et pleurer, mais les gens étaient émus de ce spectacle. Mais là, j'ai fait une grande dérive pour vous dire, oui, c'est vrai, et que je regrette un peu de ne pas avoir continué à tirer cette veine drôle. Et par exemple, ce n'est pas une drôlerie que je savais composer. Par exemple, mes amis me disent encore que je suis très drôle dans la vie. Là, vous ne vous rendez pas compte à ce micro aujourd'hui, mais et pourquoi donc tu n'écris pas des choses drôles? Pourquoi? Effectivement, la drôlerie, même quand j'écris des films, je n'arrive pas à la saisir pour en faire, quoi. Je crois que je suis drôle, on pourrait dire malgré moi, mais je ne pense pas que ce soit vraiment malgré moi. Il y a quelque chose en moi sur lequel je n'ai pas de maîtrise. C'est mystérieux quand même. Peut-être quelqu'un qui sera à l'écoute aujourd'hui me dira pourquoi, qu'est-ce que c'est que la drôlerie quand on n'a pas de maîtrise dessus et qu'on l'est malgré soi et que, donc on ne peut pas l'utiliser comme on voudrait. Voilà, c'est un regret.
Vous avez commencé, Nicole Garcia, au théâtre avec des choses très différentes, vous le disiez, mais il y a eu assez rapidement quand même, on pourrait dire en tout cas, un tropisme tchékovien. Parce que si je reprends quelques pièces, et d'ailleurs des films aussi, glanés ici ou là, la première grande pièce que vous avez jouée grâce à Patrick Chenet qui a parlé de vous au Théâtre des Amandiers, c'était La Cerisée de Tchekhov. Vous avez fait un remplacement au pied levé, et vous voilà lancé.
Oui.
Et puis vous avez joué dans Oncle Vania en 1977, dans une mise en scène de Jean-Pierre Miquel. Et puis dans La Petite Lily de Claude Miller, là, c'était au cinéma, en 2003, c'était une variation sur La Mouette. Et puis il y a eu Irina Nikolovna Arkadina, également, dans La Mouette de Tchekhov, donc, dans une mise en scène de votre fils, Frédéric Bélier-Garcia. Donc beaucoup de détours et de contours, et peut-être même une ligne droite tchékovienne. Est-ce que ce rôle tchékovien vous convient particulièrement ?
Je ne sais pas si maintenant c'est le théâtre qui me va le mieux. Oui, je l'ai joué souvent, enfin en tout cas par trois fois. Mais je ne sais pas si maintenant c'est le théâtre qui me va le mieux. Je crois que d'autres actrices le jouent mieux que moi. Elles font plus de place à la mélancolie à l'intérieur de ces personnages qui, mélancolie qui était issue aussi de la place qu'on assignait aux femmes à cette époque. Moi, je préfère les rôles avec moins de retenue maintenant, plus libre. Toujours plus libre. Et éloigner la peur. Voilà, mais j'aurais aimé jouer Les Trois Sœurs, j'aurais aimé jouer Platonov.
Il est trop tard ?
Il est trop tard. Non, pas pour jouer Les Trois Sœurs quand même, un peu. Oui, je pourrais jouer l'aîné. Mais même, oui, Les Trois Sœurs, c'est, oui, pas trop tard, non. Non, non.
C'est la vie, Tchekhov. C'est la vie, c'est l'humain.
Oui.
Avec la profondeur, avec la superficialité de temps en temps, parce qu'on en a besoin.
Oui.
C'est en ça peut-être qu'on retrouve la veine comique et la veine plus tragique.
Oui, oui, oui.
Vous dites ça convient à tous les acteurs, à toutes les actrices, mais peut-être certains
Tchekhov,
plus que d'autres.
Tchekhov, il me semble qu'il y a des théâtres, on ne peut pas dire Tchekhov. Enfin, non, moi, on dit qu'on peut être plus ou moins content de le jouer, mais on ne peut pas dire, un acteur, je n'aime pas ce personnage, ou je ne comprends pas la profondeur de ce personnage. C'est tellement... C'est magique. C'est... Oui.
Qu'est-ce qu'il y a eu pour vous comme autre grand rôle et metteur en scène important au théâtre, hein? Restons pour l'instant au théâtre, on parlera du cinéma dans la prochaine émission, mais à part les rencontres que vous avez faites avec Jean-Pierre Bisson, avec Roger Gironès, avec Roger Planchon, dans les débuts, vous avez beaucoup joué. Comme il y en a eu beaucoup, je préfère vous poser cette question très basiquement. Pour vous, quels rôles ont été les plus importants ? Que vous avez aimé jouer ?
Oui, j'ai aimé jouer. Mais je vois encore une histoire qui est assez drôle et assez... J'avais fait le conservatoire, donc, mais j'avais eu un professeur qui m'avait beaucoup plu, mais qui est mort, et il a juste fini la première année, il était un grand acteur, il s'appelait Jean Marchat. Et après, c'était moins bien, et après, je suis partie du conservatoire au bout de 2 ans, avec ce fameux premier prix. Et donc, j'ai pas eu d'autres maîtres. Sauf quand j'étais passée au centre de la rue Blanche, j'avais quand même connu des cours magistraux, mais dans Henri Roland, qui était un professeur extraordinaire. Mais, un jour, il... À Chaillot devait être montée une pièce qui s'appelle Elisabeth, la femme sans homme. C'était un texte américain. Je cherchais une actrice pour jouer une pièce qui se passait au temps d'Elisabeth. Ça s'appelait Elisabeth, la femme sans homme. C'est au temps d'Elisabeth. Et des acteurs, d'acteurs de rue, racontaient l'histoire d'Elisabeth. Et il était venu à Paris. C'était un metteur en scène qui s'appelle Liviu Cholet, qui est un grand metteur en scène roumain, qui après est parti à New York. Il ne connaissait pas les acteurs français. Et j'ai fait une sorte de casting, je crois, et c'est moi qui étais prise. Et je répétais avec tout le monde. Et un jour, je sentais bien que ça n'allait pas très bien, que mes partenaires me regardaient avec un drôle de truc, genre, c'est elle qui va faire le rôle principal, mais elle va tout... Ça va pas, elle va tout faire foirer. Et un jour, il m'a pris à part. Il dit, viens me voir. Et... Il m'a dit, tu vois, là, tu joues, tu essayes d'être conforme à ce que tu sais d'Elisabeth 1. Mais non, il faut que tu joues. C'est toi, Elisabeth. C'est toi. Ne pense plus à elle. Sors-la de ta tête, sors-la de tout. Sois à partir de toi. Enfin, bon, ça semble très simple maintenant et comme indication d'acteur. Mais pour moi, ça a été, là, pour le coup, une révélation. Une révélation du matin où il me l'a dit, à la répétition du soir. Quelque chose qui a explosé en moi. Et je n'ai reçu que ce grand cours qui a duré un quart d'heure, mais ça a été pour moi vraiment magnifique et essentiel. Et je n'y repensais pas avant cette émission depuis assez longtemps. Voilà, alors je voulais lui rendre hommage parce que je ne l'ai plus revu après. Il a dirigé à New York. Là.
Donc ça, c'était pour le cours, voilà. Et pour la révélation, voilà. Ce que c'est que jouer. Oui. Et nous en parlerons demain. Du jeu, justement. Mais la question portait plus sur les rôles, oui. Et sur les metteurs en scène qui vont compter.
L'année dernière, Royan, la professeure de français de Marine Diaye. Par exemple, là, c'était vraiment un rôle et un metteur en scène, un grand metteur en scène. Après, qu'est-ce qui a compté au... Je ne vais pas faire une liste exhaustive.
Non, ce qui vient spontanément, s'il devait y en avoir un ou deux... Que vous avez particulièrement aimé.
Je vais jouer, bon voilà, sans qualité de pièce et de répertoire. Je joue une pièce deux sur la balançoire de William Gibson, et je l'ai jouée d'abord avec Jacques Weber, et après, Jean-Louis Trintignant était venu dans la salle, il m'a dit je veux absolument jouer avec vous, je veux jouer ça avec vous. Il était un peu, on lui connaissait pas ses caprices, d'ailleurs des caprices très profonds, très très intéressants, en plus pas des petites choses, mais il avait insisté si fort qu'on l'a reprise l'année d'après dans un autre théâtre et on a joué en tournée, et ça a été un grand moment pour moi de jouer cette pièce à la fois avec Weber et après avec Jean-Louis. Et je repense beaucoup à cette représentation. Pourtant, c'est un boulevard anglais. Et là, c'était très drôle. Voilà, le personnage pouvait revenir à une fantaisie. Plus trop à une jeune première, mais quand même, encore, mais de fantaisie.
Dans les metteurs en scène, qui ont compté et qui comptent encore, oui. On pourrait citer un certain Frédéric Bellier-Garcia, quand même, parce qu'il vous a dirigé dans plusieurs rôles. Il vous a dirigé dans La chèvre d'Edouard Albee, dans Royan de Marine Diaye. Et puis il a même co-signé les scénarios de certains de vos films, L'Adversaire, Selon Charlie, Un balcon sur la mer. Frédéric Bellier-Garcia, votre fils, donc. Qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par son propre fils quand on est une actrice et une mère?
Pour moi, c'est la meilleure équation, en tout cas avec Frédéric, étant donné qui il est et ce que je suis. Le mieux de ma relation avec lui en ce moment, en tout cas, c'est quand on travaille ensemble. C'est quelque chose où, quand je suis sur le plateau et qu'il est dans la salle, la confiance que je lui fais, l'effort qu'il met effectivement à ce que ce soit le mieux, que tout soit pour le mieux, la direction qu'il a d'acteur avec moi, là, il n'intervient plus rien de... Enfin, elle est, la relation maternante, maternelle, filiale, elle est sous-jacente, elle ne s'arrête jamais, mais en tout cas, elle disparaît. Elle disparaît, quelqu'un rentrerait dans la salle de répétition, il ne pourrait pas savoir le lien que nous avons. Mais après, on sort, on s'engueule, et là, tout le monde sait qu'on est mère et fils. Mais... J'ai un lien professionnel très fort aussi avec mon autre fils, Pierre Rochefort. Mais là, on inverse les places, il est acteur et je suis metteur en scène. J'ai fait un très beau film avec lui, Un beau dimanche, avec Louise Bourgoin. Et j'espère faire une mise en scène de théâtre, ma toute première fois, avec lui.
Ce rôle de la professeure de français, dans Royan... En 2022, ça a été un moment important aussi, je crois, pour vous, Nicole oui. Garcia. Cette pièce écrite par Marine Diaye pour vous, inspirée de quelques bribes de votre propre vie. C'est un moment important parce que, d'abord, c'est un seul en scène. Et voilà. Si je ne m'abuse, c'était la première fois que vous jouiez un seul en scène, un monologue.
Oui.
Un monologue qui fait une bonne soixantaine de pages. Quand on est totalement néophyte et qui dame comme moi, on se dit en le lisant déjà, mais comment fait-on ?
Elle a appris
comment
tout
fait-on
ça.
Pour apprendre oui. un texte déjà aussi long ? Vous n'êtes pas la première à avoir fait des monologues, mais on peut se poser la question à chaque fois. C'est... Et puis un tel texte, qui plus est,
oui.
parce que l'écriture est une écriture très littéraire, très particulière. Donc là, vraiment, on va essayer de plonger dans la fabrique de l'actrice, de la comédienne. Comment fait-on pour apprendre ?
Non, mais là, oui, apprendre, c'est pas grand-chose. C'est jouer la grande affaire. En fait, on l'avait créé à Avignon en 2021
ouais.
et joué après à Paris, au Théâtre de la Ville en 2022. Mais c'est vrai que j'avais eu la chance d'avoir tout le confinement pour apprendre.
Déjà du temps.
Déjà du temps. Voilà. Parce que on devait le faire en 2020, donc il y a eu le confinement qui a bloqué le Festival d'Avignon. Donc j'ai eu ce temps-là. Mais c'est vrai que c'est le temps de l'apprendre, mais plus encore, c'est d'arriver à jouer, à partager quelque chose de cette énergie qu'il y a dans cette pièce, cette chose si... À la lire, quand je l'avais lue, j'avais pas compris grand-chose. C'est vrai, souvent, du théâtre, il faut le proférer pour le comprendre. J'ai vu ça aussi avec Partage de Midi, je comprenais pas Partage de Midi, mais dès qu'on le lit, tout est clair. C'est incroyable. Mais
on peut un tout petit mot de l'histoire très rapidement. Oui. C'est une professeure de français qui...
Un professeur de français qui rentre chez elle, dans son immeuble, et elle va prendre son courrier. Voilà, on la sent un peu fatiguée par sa journée de travail, et puis elle prend les quelques cartes postales, les quelques publicités plutôt qu'il y a dans sa case, pas grand-chose. Et d'un coup, elle s'arrête, et elle sent qu'il y a quelqu'un dans son immeuble qui est là, et qu'on l'attend. Elle découvre peu à peu que c'est... qui sont carrément au deuxième étage, sur sa porte-palière. Elle ne veut pas monter, elle ne veut pas les voir. Comme elle dit, je ne veux pas vous connaître, je ne veux pas vous voir. Et elle va dire pendant une heure et demie quelle est l'histoire et pourquoi. Et en fait, ses parents sont cette parent d'une élève qu'elle a eue. Il s'est passé un drame. Et on ne dira pas lequel, mais ils veulent lui demander des comptes et elle pense qu'elle n'a rien à voir avec ça. Comme elle dit, elle aurait dit justement, j'ai rien à voir avec ça, allez pleurer ailleurs. Et puis, comme vous dites, elle parle un certain nombre de pages et elle raconte des choses, son enfance effectivement à Orense et d'autres choses. Et elle va enfin arriver à être obligée d'avouer qu'est-ce qui est d'elle. Elle est responsable de quoi? Elle ne se sent pas responsable, ni coupable, mais quand même, qu'est-ce qui a entraîné ce drame et quelle est sa part là-dedans? Quelle est sa part?
Vous avez aimé jouer ce rôle?
Beaucoup.
Et être seule en scène?
Être seule en scène. Débarrassée de tous les interprètes, débarrassée de tous les autres. Non, mais c'est un challenge tout particulier, parce que quand on joue avec des acteurs, on a la même angoisse quand on rentre en scène, surtout dans les débuts de la pièce, mais on sait que sa énergie va être prise en relais par d'autres, et que, alors que là, il faut savoir qu'il faut avoir cette énergie prête pour un voyage de une heure et demie. On sera le seul objet de regard, là pour le coup l'objet de regard n'est que sur vous, et l'objet de, on peut dire l'objet de désir, mais l'objet d'intérêt et de larmes s'il y en a, et de rire peut-être, il faut en avoir l'énergie.
Vous savez, je vous demandais comment on apprend un tel texte. J'ai lu dans un livre de la comédienne Anouk Grimbert, dans le cerveau des comédiens, de la bouche d'un neurologue qu'elle a interviewé, qu'il est prouvé que les gens apprennent mieux un texte si dans la pièce, ça sent la rose. Est-ce que vous avez appris ce texte avec des roses dans votre pièce?
Non, mais
eh ben voilà, la prochaine fois, peut-être des roses.
Ah, ça paraît que ça c'est prouvé
scientifiquement.
Ah ouais. Bon,
on se retrouve demain, le temps que vous méditiez sur cette phrase.
Avec un bouquet.
Avec un bouquet de roses. Bonne soirée, merci.
Au revoir.
Nicole Garcia. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Yvan Turc, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.